Je crois que chacun de nous a connu ce genre de choses où un enfant se sépare d'un objet qu'il a l'air d'échapper ou de rejeter et de réclamer ensuite. Et on voit bien que cette expérience se répète, c'est-à-dire que l'objet par lui-même ne semble pas avoir un grand intérêt, sinon d'être rejeté. Et ce semblant d'absurdité permet de comprendre que peut-être, par cette activité, l'enfant essaie d'obtenir quelque chose de lui-même, ou des gens qui sont là peut-être pour ramasser la petite cuillère, ou alors il essaie d'inventer un mode de présence au monde différent et inouï dans le genre animal. Ce qu'on peut déduire de cette activité, c'est que peut-être elle se relierait à ce que dit l'enfant au même moment. C'est-à-dire, il s'agit d'un enfant qui ne dit pas encore vraiment, mais qui dit, qui commence à dire, jetant l'objet, il dit, il lance un certain son, récupérant l'objet, il en produit un autre. Il semble là y avoir la naissance du rapport entre ce qui est dit, ce qui est vocalisé, et la présence ou l'absence d'un objet. Ce qu'on appelle insignifiant, c'est quelque chose qui s'oppose à un autre signifiant, c'est-à-dire dans ce cas un son, le son manifestant la présence, s'oppose à un son différent qui manifeste lui l'absence. Je prends la chose dans un autre registre. Lorsque la mère est absente, l'enfant peut la réclamer. Simplement, à partir du moment où il est en situation de pouvoir appeler la mère, c'est-à-dire il est dans la situation de pouvoir nommer l'absence, on peut comprendre qu'il sera capable aussi de nommer la présence. Or, de nommer la présence, ça veut dire être capable de se séparer de cette présence. Pouvoir dire que quelqu'un est présent, ça veut dire que ce quelqu'un peut très bien être absent. Donc, ce rapport de présence, absence, nommé, c'est le début du drame qui nous concerne les uns et les autres, c'est-à-dire que nous appelons les gens, nous appelons les objets. La contrepartie, c'est que lorsque ces gens, lorsque ces objets sont là, nous les appelons à foutre le camp. C'est-à-dire que dans ce registre de présence et d'absence se place le désespoir. Au fond de la relation de l'amour, il y a ce même phénomène. Il n'est pas possible d'aimer quelqu'un dans le sens que nous aimerions l'avoir auprès de nous, sans, quand il est là, songer à la possibilité, et je dirais à la nécessité de son départ. Le jeu de la présence et de l'absence est un jeu beaucoup plus dangereux qu'on ne pourrait l'imaginer, parce qu'il va s'opérer par rapport à un personnage redoutable pour tout enfant, qui est la mère. Ce que c'est que la mère, je dirais que, pris dans un certain registre, la mère et surtout le désir de la mère, c'est, comme le fait remarquer Jacques Lacan, une gueule ouverte, avec des dents terribles et qui s'apprête à vous bouffer. La condition pour s'en tirer, je cite à nouveau Lacan, c'est de lui mettre entre les dents quelque chose de suffisamment dur. L'autre fois j'ai parlé du désir. Ce qu'il convient de lui mettre entre les dents, et il y a intérêt à ce que ça soit vraiment dur, ça s'appelle un phallus. Qu'est-ce donc que ce phallus? C'est la personne, ou c'est la voix, qui peut dire à l'enfant qu'il existe un moyen de pacification dans cette question de présence ou d'absence. C'est quelqu'un qui peut dire à l'enfant: maman est partie, elle reviendra. Ce quelqu'un qui peut prendre des engagements pour le futur relativement à une personne qu'il n'est pas lui-même, on peut imaginer que c'est quelqu'un que la mère aime et qui lui aime la mère. On peut donc penser que quand il dit à l'enfant « Maman est partie », cette angoisse que je vois en toi n'a peut-être pas toutes les raisons de persister parce qu'elle reviendra. Il y a intérêt effectivement à ce qu'il soit aimé de la mère parce qu'elle peut très bien ne pas revenir là où lui l'attend et donc là où l'enfant l'attend. Maintenant que l'enfant entre dans cette promesse que lui fait le père, c'est tout le problème de chacun de nous. Et c'est ici que se place la castration. C'est une question de phrase. Voilà. Un père dit une chose à son enfant. Il dit: je dis que maman reviendra. Si l'enfant entre dans cette phrase-là, il va dire: papa dit que maman reviendra. Conséquence: je dis que maman reviendra. Vous voyez que dans l'une des phrases, le sujet c'est papa, dans l'autre c'est je. Il est absolument impossible de proférer la moindre parole de vérité sans passer par ce qui s'appelle le meurtre du nom du père. Dès qu'il s'agit de parler en termes de jeu, c'est-à-dire d'être véritablement dans le symbolique, il est absolument impératif de loger son je à la place du nom du père. C'est ce qui s'appelle la castration symbolique. Elle est réciproque. Elle est réciproque, pas franchement. Il s'agit d'une part du meurtre du nom du père, et pour l'enfant, il s'agit de la rupture entre le je qu'il établit là et le reste de la phrase. Vous voyez bien qu'en assassinant le nom du père, le je vient là, mais vous comprenez bien qu'il est tout à fait branlant dans cette position-là. Donc, chacun de nous ne peut qu'avoir une grande inquiétude à proférer des vérités. Il faut constamment se souvenir de cela. La vérité est une conquête, et donc, ça n'est pas une dégradation que de mentir ou de se mentir à soi-même ou de mentir à autrui. Le mensonge est la condition normal. La vérité est la condition de l'héroïsme. En chacun de nous existe un héros. Simplement, il sera héroïque comme l'homme ou la femme la plus ordinaire. Et voilà où vient se loger l'amour. Si l'amour doit être ce lien d'une intensité extraordinaire entre la langue telle que nous la pratiquons les uns et les autres et notre vie propre, tout cela ne peut que déboucher sur l'héroïsme. Il n'y a pas d'héroïsme sans rapport à la mort. Voici pourquoi. cette image du stade du miroir, cette image forte qui fait croire à l'enfant qu'il peut lui aussi avoir son unité, cette image-là le renvoie en fait au morcellement de son corps, c'est-à-dire à la mort. Chaque image qui nous paraît totale nous renvoie à la mort. Et supporter de regarder l'image totale, c'est donc supporter de regarder la mort en face. Cette expérience où il s'agit de regarder la mort en face s'appelle la beauté. La beauté intervient juste à la frontière de la mort et de l'émergence de ce qui s'appelle le désir. Je prendrai un exemple. Je prendrai l'exemple d'Antigone. Je n'entre pas dans les détails. Simplement, Antigone, à un moment donné, doit mourir. Elle va mourir dans des conditions terribles. Elle s'apprête à quitter ce monde. Et au dernier moment, elle se tourne vers ce monde et elle manifeste la puissance de son désir par rapport à ce monde. C'est-à-dire que ce monde, elle voudrait bien encore y vivre. Et en même temps, elle ne désire plus y vivre. Elle préfère la mort. Mais ce moment intermédiaire nous permet de voir en elle la beauté. La beauté, c'est le dernier cran avant de tomber directement dans le réel. La charcuterie est plus que la charcuterie, le désespoir définitif qui consiste à dire plutôt ne pas être né, ce qui sont les derniers termes de ce qui peut y avoir de plus important chez Œdipe dans Sophocle.